Alors, nous allons parler avec Luc Laliberté, chroniqueur, spécialiste en politique américaine, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc.
Oui, bonjour Richard.
Écoute, Bill Gates, là, Bill Gates, c'est pas seulement Monsieur Microsoft. Bill Gates, il a une fondation, il donne des gonzillions de dollars pour les luttes contre les pandémies, les virus, les épidémies. Luc, ça fait des années que Bill Gates dit « ça s'en vient ». Ça s'en vient. Ouais. Faut se préparer, ça s'en vient. C'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va s'en venir. Et l'être humain, qu'est-ce que tu veux, on prévoit pas à long terme. On est là dans le plaisir à court terme. On n'a pas prévu ça à long terme. Là, on est dedans. Ben, il est trop tard, maudit.
Ah, écoute, c'est bien difficile de pas reconnaître que Bill Gates et toi, parce que c'est toi qui me transfère l'info, ben vous avez pas raison dans ce dossier-là. Écoute, quand on dit souvent, je veux remettre ça dans un contexte d'ensemble, je regarde le monde occidental, c'est ce que je couvre bien souvent comme prof, les États-Unis et nous faisons partie de la civilisation occidentale. On a une profonde remise en question dans les dernières années de tout ce qui est autorité. On pense parfois aux politiciens, aux hommes politiques, aux dirigeants, puis parfois ils l'ont bien mérité aussi, soyons honnêtes, mais on doute de toutes les sources d'informations habituelles, traditionnelles, incluant les experts et les scientifiques. Moi, j'étais sidéré, par exemple, que l'idée que la Terre soit plate puisse revenir. On remet en question l'utilité des vaccins, par exemple, puis ça a donné des foyers de rougeole aux États-Unis qui sont revenus. Donc, on a ce vaste mouvement, alors qu'on pensait, il y a des années, entre autres depuis le 18e siècle, que c'est par la science qu'on parviendrait au progrès puis à améliorer notre vie, ce qui a été le cas. On est dans ce genre de mouvement-là encore aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a un des aspects positifs dans une situation qui est terrible, qui est horrible, c'est peut-être qu'on va recommencer à écouter ce qu'on nous disait. Bill Gates est un gars qui est particulièrement bien informé, puis il a les moyens même d'aller chercher les sources d'information. Écoute, et il n'y a pas que les États-Unis. Là. Moi, j'ai pointé du doigt Donald Trump qui a été informé depuis 2017 du fait que ça se préparait une pandémie. On savait pas que ce serait la COVID-19, mais on savait que ça s'en venait. Ses services de renseignement l'ont avisé, et il a effectué des coupures même dans les préparatifs et dans les centres de recherche. Donc, mais on constate ici aussi, avec l'annonce, entre autres, du gouvernement hier, qu'on va manquer de matériel, qu'il y aura une pénurie. Il y a la demande américaine qui va être très forte, bien sûr, mais on ne s'était pas préparé à ça non plus. Il y a des choses, donc, qui n'étaient pas prévisibles, mais il y a quand même des réalités auxquelles, puis tu l'as très bien souligné, auxquelles on aurait dû se préparer quand on écoute les experts.
Et Luc, quand tu dis, là, tu croyais que la science aurait gagné davantage de terrain, et tu me fais penser à Carl Sagan, qui est ce grand vulgarisateur astronome. Et avant de mourir, Carl Sagan, il a écrit un livre qu'il a oublié aujourd'hui, ce livre-là, mais qui s'appelle The Demon Haunted World. Et là-dedans, il disait justement exactement ce que tu viens de dire, Luc. On assiste à une résurgence des théories du complot, des superstitions, voilà, de la religion, et la science est en train de perdre du terrain. C'est le message qu'il a voulu laisser avant de mourir, Carl Sagan, et exactement ce que tu disais.
Et c'est ce qui complique également la possibilité d'avoir des discussions de groupe ou des discussions ouvertes. Tu vois, mes petits biais bien modestes dans le journal, il y a souvent des lecteurs, puis c'est le cas pour tous ceux qui s'exposent publiquement, qui viennent émettre des opinions contraires aux miennes ou qui contredisent les données que j'avance. Et ça va. J'ai pas de difficulté à discuter, à échanger, à appuyer mon propos. Ça fait partie de la game, comme on dit, et même j'en tire un grand plaisir. Mon problème, c'est quand les gens nient la réalité ou nient les évidences, et que ce qu'on me relaie pour appuyer des propos, c'est des théories du complot. Donc, je trouve ça triste parfois, puis j'essaie de ménager les susceptibilités quand je le peux, mais à d'autres moments, je dis non, là, vous avez le droit de vivre dans un univers parallèle, vous avez le droit de vivre dans votre monde, mais pas de l'imposer aux autres. Puis c'est une réalité avec laquelle on compose tous et toutes maintenant.
Tout à fait. Parlant de théories du complot, Donald Trump qui dit « s'il a tant tardé à réagir, c'est à cause des démocrates.
» En fait, soyons honnêtes, et ce n'est pas un poisson d'avril. C'est pas. D'ailleurs, le meilleur poisson d'avril que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'on fait circuler actuellement sur les réseaux sociaux une décision de Twitter qui aurait fermé le compte de Donald Trump. Donc, c'est mon okay, coup de cœur pour le poisson d'avril cette année. Mais pour revenir à ce que tu disais, donc c'est pas Donald Trump lui-même qui a dit ça, bien qu'il ait récupéré la balle au bon. C'est Mitch McConnell, le meneur républicain, le leader des républicains au Sénat. Mitch McConnell, c'est quelqu'un de très expérimenté, c'est un fin stratège. il est intelligent. Hier, il était en entrevue avec finalement un ami du parti, un animateur conservateur qui est très pro-administration Trump. Et il dit, vous savez, si le président était mal préparé, puis donc il reconnaît effectivement le manque de préparation de l'administration, ben il dit c'est parce qu'on était aux prises avec la procédure de destitution, comme les démocrates se sont acharnés à la Chambre, puis qu'on a dû faire un procès au Sénat, ben c'est ce qui explique que le président a été distrait. C'est cette fois-là d'une malhonnêteté intellectuelle profonde. D'abord, le procès s'est terminé 3 semaines avant l'éclosion, la première éclosion, le premier cas aux États-Unis. Au bout du 15e cas, le président disait encore « Tout est sous contrôle, ça va revenir à zéro rapidement. » Et en disant ça, McConnell venait de contredire ce que moi je t'ai dit tout à l'heure. Ça fait 3 ans qu'on avertit le président que ça s'en vient et qu'on devrait s'assurer de mieux financer le Center for Disease Control, la santé publique, la CDC. Le président a coupé. Il a même coupé le personnel qui était en Chine pour tenter d'identifier le virus avant qu'on sache que c'était la COVID-19. Et donc, ses experts en renseignement, depuis le mois de janvier, disaient, Monsieur le Président, là, c'est plus juste un risque éventuel qu'on vous soumet. Ça s'en vient. Et Donald Trump n'a pas bougé face à tout ça. Donc, c'est inutile d'y revenir. On le sait qu'il était mal préparé. Il faut regarder maintenant les gestes qu'il prend. Mais McConnell a tenté hier de le disculper totalement en disant « C'est de la faute des démocrates. »
Écoute, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on va voir un nouveau Donald Trump? Est-ce qu'on va voir un nouveau Donald Trump, c'est-à-dire plus humble? Parce qu'il a dit « Ça va être difficile les jours à venir. » Est-ce qu'il est en train de muter?
Oui, c'est comme le virus mute Donald Trump, et à sa façon, il est toujours viral, donc il mute lui aussi. Et Donald Trump a effectivement lu les différents sondages. Si on a appuyé pendant un temps, sa gestion de la crise actuelle, il se rend compte que certains arguments ou certaines décisions inquiètent. Et à partir du moment où sur Fox News on a relayé ses inquiétudes, le président a en québécois, en slang, viré bout pour bout. Et donc, on l'a vu passer de « on relance l'économie, puis on retourne les gens au travail pour Pâques » à « préparez-vous, le pire s'en vient ». Je peux critiquer ou trouver inconséquent certains propos du président. Ce qu'il vient de faire, c'est très, très important. Donc, quand il fait des bons coups, Donald Trump, ou qu'il va dans la bonne direction, il faut le souligner. Moi, je pense qu'il est plus que temps, surtout que le confinement, c'est ce que je confiais à Jonathan Trudeau hier, il semble donner des résultats à certains endroits. La Californie, San Francisco surtout, qui a été la première ville avec New York et New Rochelle, là, ça a été le premier endroit où on a imposé du confinement. Puis on est arrivé à, pour récupérer les termes du bon docteur Arruda, à aplatir la courbe. Donc, on est moins inquiet, puis le système de santé est capable de résister à la pression accrue. Et c'est ce qu'on souhaite faire. L'idée, c'est que cette courbe-là, elle soit plus longue à traverser, là, ou elle est plus longue avant d'arriver à terme, mais que le système puisse s'adapter pour mieux soigner, pour offrir les soins adéquats à la population. Donc, il y a aussi de bonnes nouvelles, mais justement, faut avoir le bon message, puis il faut tenir ce message-là constamment. Et je ne peux que souhaiter, il n'y a personne qui veut que ça aille mal aux États-Unis parce qu'on en dépend, nous aussi, ne serait-ce que pour ça, là, au-delà du facteur humain, strictement humain. Donc, on ne peut que souhaiter que le président se soit enfin mis à écouter le docteur Fassi puis les experts de la santé publique.
Enfin, écoute, des choses plus prosaïques, parce qu'il y a encore une course chez les démocrates, on l'oublie. Et Bernie n'a toujours pas jeté la serviette.
Non, puis il a perdu, moi j'ai appelé ça une chicane de couple, parce que c'était les deux progressistes les plus en vue aux États-Unis. Bernie Sanders a dit, moi je m'accroche, si on était censé avoir un débat au mois d'avril, s'il y en a un, moi je veux y participer. Joe Biden a dit, il y a vraiment encore un autre débat, puis j'avoue cette fois-là, je peux pas manger dans le camp de Bernie. J'en ai assez entendu. Je vois pas ce qu'on peut apprendre de nouveau ou de plus là, dans un débat. Et l'appui que Bernie a perdu, c'est celui d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui était l'autre vedette chez les progressistes. Là, dans l'État de New York puis dans la ville de New York, elle était immensément populaire. Elle a brassé la cage de bien des collègues à la Chambre des représentants. On peut l'aimer ou pas, c'est une des nouvelles vedettes du Parti démocrate. Et elle a décidé de jouer en équipe. Et c'est impressionnant ce qu'elle effectue comme manœuvre actuellement. Elle se tourne vers Nancy Pelosi, à laquelle elle a causé bien des maux de tête quand elle est arrivée à la Chambre des représentants, Madame Ocasio-Cortez, et elle s'éloigne de plus en plus de Bernie. Et c'est en train de convaincre les gens que finalement, Bernie Sanders ne s'accroche pas parce qu'il croit toujours, aussi mince soit-elle, en ses chances de l'emporter, mais il ne veut être là que pour démontrer qu'il a raison sur tous les points, qu'il est incapable, finalement, de se rallier à quelqu'un d'autre que Bernie. Donc, ça fait ressortir son côté un peu solitaire au sein du Parti démocrate, puis même au Congrès. Hillary Clinton, que j'aime pas particulièrement, avait bien raison quand elle disait, vous savez, au Sénat, là, il est isolé, Bernie, il y a pas grand monde qui veut travailler avec.
Non, mais c'est pas un team player, ce gars-là, il joue pour lui, puis rien que pour lui, là.
Voilà, c'est absolument pas un joueur d'équipe. Puis moi, c'est ce que je lui reproche. Tous les autres, écoute, puis il y a de gros égos. Dans la course démocrate cette année, on avait beaucoup de poids lourds. Des gens qui sont habitués d'avoir les projecteurs braqués sur eux, d'avoir une grande influence, des gens qui ont eu des carrières politiques assez impressionnantes. Ces gens-là ont mis leur égo de côté. Ben, Michael Bloomberg en est un.
Ben oui.
Ils ont décidé de se ranger derrière. On peut pas nier que Bloomberg ait un égo très, très important. Ils se sont rangés derrière Joe Biden. Et c'est ce que refuse toujours de faire Bernie Sanders.
Incroyable, ça en dit long sur lui. Écoute, en terminant, on est en confinement, on cherche toujours quelque chose à lire. Tiens, t'es un homme de grande culture, Luc. Chaque fois que je vais te parler, on va terminer en disant, écoute, un livre, conseille-nous un livre. Chaque fois qu'on va se parler, aujourd'hui, ça serait quoi?
Si j'en ai qu'un à vous donner aujourd'hui, vous avez peut-être vu que la Cour suprême a autorisé l'État du Texas à interrompre le recours à l'avortement. Donc, en raison, en théorie, c'est l'argumentaire des pro-vie, c'est ben réservons les hôpitaux pour la COVID-19, puis on fait plus rien, même pas d'avortement.
Donc, par la bande, ils veulent passer un peu leur idéologie là, anti-avortement.
Ben oui, c'est d'ailleurs ce que les médecins eux-mêmes disent. C'est non, c'est une supercherie. Donc, tout ça pour dire, c'est en lien avec le roman que je vous propose. Et moi, ça a été la première fois où on m'a exposé de façon très humaine, détaillée, la réalité de l'avortement à une autre époque. C'est le classique de John Irving. En anglais, c'est Cider House Rules.
Oui.
C'est l'œuvre de Dieu, la part du diable. Et c'est un médecin qui, aux États-Unis, donc, est dans un orphelinat. Il donne naissance à des enfants, mais il pratique aussi des interruptions de grossesse. Et l'histoire, elle est particulièrement bien faite. Le Dr. Latch, puis Homer, qui est le jeune orphelin qui se rapproche de lui.
Il développe pas une dépendance à l'éther aussi? Je crois.
Oui, voilà, exactement.
C'est
donc, puis on comprend d'ailleurs d'où lui vient cette dépendance-là. Plus on lit le roman, mais ça expose très bien avant que des médecins acceptent illégalement, mais dans des conditions beaucoup plus sécuritaires ou des conditions d'hygiène respectables, ça explique à quoi devaient s'en remettre les femmes qui, pour 1 million de raisons, souhaitaient interrompre des grossesses. Ben, donc, pour moi, c'est un des grands romans de John Irving. On en avait tiré un film.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu le film avec Michael Caine, qui était pas mal. J'avais pas lu le livre. Évidemment, les livres, c'est toujours plus riche, plus profond, plus fouillé. Puis John Irving est tellement bon. Donc, La part de Dieu, l'œuvre du diable, de Cider House Rules. Merci beaucoup.
Donc voilà, puis je vous conseille d'ailleurs, on a un peu de temps, je vous conseille les deux, le roman d'abord puis le film ensuite.
Oui, parfait, parce que le film est pas mal bon aussi. Merci beaucoup,
vraiment.
Luc, La Liberté, passe une bonne semaine, merci.
Merci, toi aussi.